bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons retrouver les éditions du Ruhr avec Georges Chanon, son président, directeur. Les éditions du Ruhr vont cesser après 40 ans d'existence. On va voir avec lui cette belle aventure qu'il a menée avec bien sûr beaucoup de bénévoles. Et bien, on va parler de ces éditions du Ruhr qu'on retrouvait régulièrement lorsque à Arsac il y avait Livre Évasion. Cette année, malheureusement, Georges ne pourra pas faire ses adieux à tous les auteurs, mais bon, c'est comme cela. Peut-être que l'année prochaine, il verra faire un petit tour. On va le retrouver dans quelques instants, Georges Chanon, pour nous parler des éditions du Ruhr. Que tu la espalda me das cuando te miro yo veo. Que tu la espalda me das si lo haces porque soy feo. La culpa de yo tiene papá.
Ave María Lola, conmigo vas a acabar.
Ay, mira, mira. Voilà, bien, on va retrouver Georges Chanon, président, directeur des éditions du Ruhr. Georges, bonjour, je ne sais pas comment on peut dire.
Bon, animateur, ça serait plus simple.
Animateur, très bien. Voilà. Alors bon, c'est une belle aventure qui va s'arrêter. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour les petits éditeurs, mais je crois qu'on mène un peu le même combat, nous, avec les radios libres, puisque radio associative, on les appelle comme on veut. Puisque nous aussi, on essaye de mettre en avant des gens qui ne peuvent pas s'exprimer bien ailleurs. Sur les grandes radios, on n'en parle même pas. Toi, pour l'édition aussi, c'était un peu le cas où tu as édité beaucoup de personnes de la Haute-Loire.
Oui, mais j'avais justement dans ma tête fait le rapprochement avec les radios, au départ les radios libres qui avaient été créées en 1981. Je pense que Radio Craponne est une des rares qui subsiste, puisque les radios maintenant qu'on appelait libres, celles qui sont sur modulation de fréquence, sont toutes affiliées à des grands groupes. Et l'édition, quand on édite en région, c'est très compliqué parce que il n'y a pas la reconnaissance nationale, effectivement, mais en plus, on est condamné, du fait de la diffusion du livre, à produire que des bouquins et d'auteurs qui sont locaux.
D'accord. Oui, alors c'était un peu le compliqué. Alors, bon, c'était un choix déjà, je dirais, prémédité de s'arrêter après 40 ans, ou est-ce qu'il y a des événements? On sait que en début d'année, tu avais perdu ta compagne, donc est-ce que ça a précipité les choses?
Non, j'étais prévu. Je m'étais dit il y a plusieurs années que j'arrêterais à 70 ans. Je pense que j'ai manifesté suffisamment pour la retraite à 62 ans. Et il ne faut pas perdurer, ça ne sert à rien. Place aux jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont encore des idées, notamment dans le domaine du numérique. Moi, je ne veux pas passer au numérique, je suis un dinosaure de l'édition, je suis un homme de papier. Et j'aime le papier et je ne veux pas passer au-delà, quoi.
Alors, tout d'abord, comment elle a commencé cette aventure? Parce que ça fait 40 ans. C'est toi qui as eu l'idée de monter ces éditions du Ruhr?
Ben, je ne sais pas ce qui a eu l'idée, c'est vieux, je ne me souviens pas à l'époque, mais on était plusieurs, un groupe, à dire il faut éditer, publier des textes en occitan. Bon. Et après, comme toute association qui débute, les gens s'éloignent plus ou moins, il reste le noyau le plus motivé. Et on a fait de l'imprimerie aussi, c'est-à-dire qu'on éditait nos textes, on les imprimait d'ailleurs dans une grange, tout simplement avec une presse offset. Et la technologie a évolué tellement qu'on ne se cantonnait maintenant à faire que de la composition, et l'imprimerie elle a été décentralisée dans des imprimeries de labeur, dans des presses classiques d'imprimeurs. Donc nous on a continué, mais l'impression militante ça a un temps, ça ne sert plus à rien des fois, alors on a dit il faut publier des auteurs, et on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait publier, toujours dans une certaine ligne. C'est vrai qu'on a publié de l'histoire surtout, de la littérature, très peu de domaine scientifique ou de domaine musical ou artistique. On a voulu privilégier des gens qui avaient quelque chose à dire et quelque chose à montrer.
Alors, est-ce que c'est né quand même de 1968?
C'est né en 73, plus que ça. Mais effectivement, ce renouveau de 68 a fait que c'est un peu comme en Espagne après la mort de Franco. Il y a eu une éclosion de plein d'idées. Des gens dans tous les domaines ont cherché à faire des choses et puis quelques-uns sont restés. Moi, en 68, j'avais 17 ans. Donc, quand je vois actuellement ce qui se passe quand on dit est-ce qu'on va faire le bac ou on va à l'école, en 68, on a donné le bac pratiquement sur des dossiers scolaires. Il est arrivé plein de choses au niveau des mœurs, au niveau des idées et au niveau social aussi. Et ça fait partie, effectivement, d'une mouvance qui est héritière un peu de ce mouvement-là.
Oui, alors c'est vrai que vous avez publié beaucoup de choses hein, sur les éditions du Ruhr, sur ce qui s'est passé ben, du côté social, hein, puisque il y a Histoire sociale de la Haute-Loire, hein, c'est quelque chose qui sortait régulièrement toutes les années.
Oui, ça, on en est au 11e numéro, c'est le dernier qui vient de sortir actuellement. Histoire sociale, c'est un collectif, hein, c'est un collectif d'historiens locaux qui ont dit qu'il fallait parler des gens de peu, des gens de rien, des gens qui ne sont pas des nobles, ne sont pas des riches. On peut parler des riches en disant sociologiquement, bien sûr, mais qui n'ont pas envie de vanter la richesse et de parler des gens de peu, comme on dit. Le numéro qui sort cette année reprend le colloque qu'on avait organisé au mois d'octobre, et c'était sur le homme et femme de Haute-Loire au travail. Donc c'était 1850-1940 à peu près, qui concernait donc les gens qui travaillent autant dans la paysannerie que dans les ouvriers, que chez les ouvriers, ou les gens, les bonnes, comme on disait, les bonnes de ménage, ou les gens, les enfants placés dans les fermes. Voilà.
Et c'était, ça rappelle, parce que c'est vrai que les jeunes ne se rappellent pas forcément, ils n'y étaient pas, de toute façon c'est difficile de se rappeler. Donc ça aussi c'est un peu un travail en fait de mémoire. Hein.
C'est un travail de mémoire, mais aussi c'est un travail d'archives. On travaille, nous, parce qu'on a été formé à une génération d'historiens, on travaille sur des dossiers, pas que la mémoire de l'individu. Il faut aller gratter dans les dossiers d'archives, dans les cartons poussiéreux, il faut essayer de faire une synthèse des documents et se méfier des documents. Moi, dans ce numéro d'Histoire sociale, j'ai fait un texte, un texte court, hein, mais qui parle d'un jeune perruquier au XVIIIe siècle, parce que les coiffeurs et perruquiers avaient un rôle à jouer jusqu'à la Révolution, parce que la Révolution a coupé un petit peu les têtes, hein, il ne faut pas arrêter avec ça, mais a coupé les perruques. Donc, il y avait des gens qui étaient travaillés là-dedans, les coiffeurs et perruquiers, et il y avait un jeune perruquier qui s'appelait Durand, au Puy, et qui avait décidé de partir en Italie. Et là, il comprenait pas la langue, il s'est mis à se dire qu'il faudrait qu'il rentre dans l'armée. Alors, il rentre dans l'armée du roi de Piémont-Sardaigne. Et il s'avère à ce moment-là que il est en 1792, il était parti avant la Révolution, et la guerre est déclarée entre le Piémont et puis la France, et la Révolution. Et donc il se trouve du mauvais côté. Alors il va déserter, et puis il veut rentrer en France, et la seule façon de rentrer en France, c'est de s'enrôler dans les armées autrichiennes, pour arriver au moment où il sera près de la frontière, pour passer la frontière. Je ne dis pas ce qu'il est advenu, mais ça c'est un document qu'on a trouvé dans les archives, et l'historien doit se poser la question. Est-ce que ce qui est raconté dans ce document, c'est vrai? Même si le document est vrai, il était à l'époque, il est fait avec du papier d'époque, de l'écriture d'époque, est-ce que ce que raconte cet individu est vrai ou c'est faux? Ça, c'est le rôle d'un historien, il ne suffit pas de reprendre ce qui est dit et ce qui s'est dit.
D'accord, voilà, donc voilà, c'est une des particularités. Alors aussi, vous avez commencé en occitan, vous publiez tout en occitan au début?
Non. On a publié en occitan, c'était un texte d'Yves Gourgaud. C'était une anthologie, on avait dit il faut quand même donner à la langue un peu qu'elle retrouve un peu sa fleur. Et Yves Gourgaud nous avait fait une anthologie de l'écrit occitan sur 1000 ans à peu près, ou 900 ou 1000 ans à peu près. Ça partait des textes administratifs, des textes qui étaient réalisés, écrits en occitan. Donc un des très anciens textes en occitan est les archives départementales. Et on s'était dit de faire du bilingue, toujours on a fait du bilingue, c'est-à-dire on traduit systématiquement pour savoir que la langue existe et qu'elle évolue. Et puis, j'ai constaté quand même que des auteurs en occitan, il n'y en a pas beaucoup. Et on a essayé de publier un livre par an sur 7 ou 8 qu'on publiait en occitan.
En un fervent défenseur, hein, c'est Hervé Quesnel.
Quesnel, Gourgaud, et effectivement, il y en a plusieurs, oui.
Ouais, mais lui, il a vraiment beaucoup travaillé.
Il devait même en faire un
dictionnaire. Je ne sais pas où on en est, là, mais...
Si, mais j'ai bien vu son dictionnaire. Je suis très au courant, mais le problème, c'est que son dictionnaire est très, très volumineux. Et c'est très difficile de publier quelque chose de très volumineux parce que ça produit des coûts énormes, quoi.
Ouais, c'est ça. On revient toujours à la case départ, quoi.
Ouais.
C'est toujours pareil. Alors aussi, il y a Les Boutières. Alors là, c'est une longue histoire aussi, hein, aux éditions du Roure, ça.
Ben, Les Boutières, c'est le fait du hasard. C'est un jour, Georges Vignal est venu nous voir et nous dit « Est-ce que ça vous intéresserait de publier quelque chose sur Les Boutières ?» Et Les Boutières, pour les gens qui connaissent pas trop, c'est quand on est au Mézin, on va à la Croix de Boutières, on monte à la Croix de Boutières, et à ce moment-là, c'est époustouflant. Il y a un paysage époustouflant, on voit le sud de Sarra, et on va jusque Privas, Saint-Pierreville, Saint-Martin-de-Valamas, et quelquefois par beau temps, on voit les Alpes. Et ça, c'est Les Boutières. Et c'est un territoire qui est, on dit toujours l'Ardèche, et ben c'est l'Ardèche des olives et du vin. Non, l'Ardèche des Boutières, c'est l'Ardèche comme la Haute-Loire, c'est l'Ardèche des vaches et du lait, et des fermes comme chez nous. Et donc, on s'est mis d'accord avec ce comité de Boutières, c'est une association un peu collective comme le Centre d'histoire sociale, de dire, et ben on va publier un livre par an, et on le prend en charge, nous, à titre d'éditeur, tout simplement.
D'accord, donc oui, c'est vrai que bah, c'est bien, hein, parce que c'est vrai qu'il y a l'Ardèche, la Haute-Ardèche, hein, qui est tout près de la Haute-Loire, il n'y a pas que l'Ardèche du Sud, comme tu disais. Et puis également, vous avez publié des nouvelles avec le prix Jules Vallès, ça aussi, ça a été quelque chose d'intéressant.
Oui, c'est une belle aventure, disons que le prix Jules Vallès a été aussi pour rendre hommage à cet auteur qui est emblématique de la Haute-Loire. Et un peu qui est un peu sur nos bases, Jules Vallès, c'est un auteur inclassable, et avec plusieurs personnes, une dizaine, qui formaient ce comité de nouvelles, on avait lancé cette idée de réaliser un concours et de publier les meilleurs textes du concours. On a eu jusqu'à 300 textes qui sont arrivés, je crois, bien sûr anonymes, et qu'on classait. Et que chaque année, au mois de mars, on se retrouvait et on élisait démocratiquement la nouvelle qui était pour nous considérée la meilleure. Et à l'automne, on publiait un livre, on a publié à peu près 10 livres. Mais on s'est aperçu très vite que la nouvelle, c'est un peu comme le court-métrage en littérature. Le court-métrage, on considère que c'est un film insuffisant, trop court. Et la nouvelle, on considère que c'est pas un roman, que c'est pas de la littérature, que c'est trop court. Or, c'est tellement plus facile de lire une nouvelle que de lire un roman, parce que vous pouvez en lire une et puis vous arrêtez et on passe à autre chose. Mais en France, ça marche pas. Donc on a publié 10 ans de la nouvelle et on s'est arrêté parce qu'on n'arrivait pas à écouler nos bouquins, tout simplement.
Oui, et puis c'est difficile à faire, hein, parce qu'on n'a pas 150 ou 200 pages pour faire une chute. Hein.
C'est ça le plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut réaliser en 8 pages, 18, ça peut être 6, hein, et puis trouver une chute. Il faut surprendre à la fin. Il faut surprendre à la fin, et ça, c'est pas facile.
Alors, c'est peut-être j'aurais dû commencer par là, parce qu'en fait, dans l'association, vous étiez combien, vous êtes combien actuellement ?
L'association, on était une dizaine au début, bon, maintenant, on est 3 ou 4.
Ouais, d'accord, les rescapés.
Oui, parce que 40 ans, ça s'épuise, les gens s'épuisent.
Il y en a qui disparaissent.
Puis ils changent d'avis, puis ils s'en vont. Géographiquement, d'autres disparaissent aussi. La vie, hein, il faut que justement naisse autre chose maintenant.
Alors aussi, vous avez, les éditions du Roure ont proposé, alors ça je pense que c'est assez récent, c'était la collection Polaire, ça s'est décidé quand ça ?
Ça s'est décidé suite à, effectivement, à la fin du concours de nouvelles. On s'est dit, il y a des gens qui nous proposaient des manuscrits avec des polars. Et on se disait, mais le polar, c'est pas notre domaine, c'est pas trop notre truc, on sait pas faire. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des bons textes. Notamment, on a publié Luc Bergogneau, on a publié Pascal Blasi. Et on privilégiait des petits livres, c'est-à-dire qu'ils soient pas cher, alors il fallait 100, 150 pages. Et les gens d'emblée nous ont proposé des polars à locaux, mais des polars qui avaient un trait à la région, mais pas du tout du terroir. On est contre les histoires de bouquins sur le terroir, c'est pas notre truc à nous, ça. Et que ce soit, on avait fait publier un bouquin dont je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais qui se passait à la fois en Martinique et à la fois au Puy. C'était le premier bouquin, c'était La Porte Ouverte, voilà. Et on a publié on aurait pu, si on avait continué, on aurait pu publier chaque année encore un polar, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup.
Ouais, donc vous avez, je dirais que l'édition du Ruhr ont touché quand même un petit peu à tout, parce qu'il y a eu également la poésie, hein, donc vous avez touché un petit peu à tout finalement.
Oui, absolument, oui.
Alors, bon, pas de successeur, on sait que c'est compliqué dans les associations, hein, ça se bagarre pas comme en politique pour prendre la place, donc c'est un arrêt définitif, il n'y a personne pour prendre la suite, en fait.
J'ai dit dans le texte qu'on a publié que c'est pas un arrêt définitif, au sens où on se laisse le droit, au cas
oui, c'est ce que
où des événements viendraient à publier d'autres textes, mais ce qu'on veut surtout pas, c'est être astreint chaque année à sortir 6 livres en mars-avril avec un catalogue. On pourra faire de l'à-coup de temps en temps, faire des à-coups, et puis on garde en fait la diffusion de notre stock, donc on n'est pas mort, hein, au sens où, mais on ne veut plus rentrer dans le cycle des publications annuelles, tout simplement.
Alors en plus, avec cette histoire de Covid-19, ça a empêché de finir de belle manière, puisqu'on sait que depuis le début, les éditions du Ruhr étaient présentes à Live Évasion, donc c'est un petit peu dommage ça aussi.
Ouais, ça chamboule tout le monde. C'est d'ailleurs les bouquins qu'on publie cette année vont être mis en librairie dès cette semaine, si les libraires acceptent et s'ils sont ouverts. C'est un gros handicap, hein, d'avoir de produire quelque chose et d'être incapable de le diffuser et de le proposer aux gens. On ne peut plus faire des salons du livre parce qu'ils sont tous annulés les uns après les autres. Et on ne peut plus, même à une époque, on ne pouvait pas expédier des colis de livres parce que la poste n'acceptait plus je les comprends très bien, hein, n'acceptait plus des poids très lourds. Donc on va voir, on a nos livres qui sortent, et ben, ils sont là, espérant que le public sera présent.
Oui, bah bon, c'est sûr que vous avez quand même, en 40 ans, vous avez fidélisé quelques lecteurs, je présume.
Oui, on a des gens qui attendent les publications. J'ai un libraire à Monistrol qui nous téléphone en début d'année chaque fois en disant qu'il a un client qui lui demande quand est-ce que va sortir le numéro d'Histoire sociale. Alors on lui dit oui, ça vient, mais les gens ont toujours peur qu'ils arrêtent, parce que vous savez, les éditeurs à Haute-Loire, il n'y en a plus beaucoup. Et on se dit toujours, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres publications ou d'autres éditeurs? C'est un peu la grande question, quoi, pour nous.
Alors, bon, j'aurais peut-être dû commencer par là, parce qu'en fait, on n'a pas les éditions du Ruhr, on n'en parlait pas trop de Georges Chanon, parce qu'en fait, toi, au départ, on se tutoie, hein, parce que depuis le temps qu'on se connaît,
oui.
On va pas commencer à...
Oui,
moi, je tutoie beaucoup, d'ailleurs. Oui, je disais, Georges, toi, tu faisais quoi, en fait, à part les éditions du Ruhr?
À part les éditions du Ruhr, moi, j'étais secrétaire général d'une commune de Haute-Loire, donc j'étais fonctionnaire. Et j'ai fait des études de droit et des études d'histoire. Et l'édition, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait en études, et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait en travail. Mais j'ai toujours considéré comme, pour faire de quelque chose d'intéressant, il fallait être disponible et avoir les moyens de le faire. Et donc, j'avais pas besoin, moi, des éditions pour vivre. Au contraire, ça me permettait de faire les éditions parce que j'avais un travail à temps total, à temps complet, à part, et qui me permettait de vivre correctement.
Ouais, c'était quand même, je dirais, un hobby un peu. Hein. C'est, il y en a qui sont passionnés de pêche, de chasse. Ben, toi, c'était la littérature.
Bien sûr.
Puis alors, surtout la littérature locale, je dirais.
Oui, mais parce que je me suis expliqué là-dessus. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi j'irais éditer un texte sur l'histoire de l'Alsace ou de la Lorraine. Je suis ici, j'édite en région, j'édite pas sur la région, mais j'édite en région, et je donne la parole ou l'écrit à des gens qui ont envie de s'exprimer. Si les gens après sont envie de partir plus loin, de se faire un nom, ben ils vont chez des auteurs nationaux s'ils sont reconnus. Voilà, tout simplement. J'ai pas cette ambition de vouloir tout prendre, tout garder.
Il y avait un comité de lecture aux éditions du Ruhr pour dire on prend ce roman, on le prend pas.
Bien sûr, bien sûr. Il y avait un comité, il y avait disons des gens qui travaillaient physiquement au sens. Moi je dis toujours, faire de l'édition, c'est pas qu'un travail intellectuel, c'est aussi un travail physique. Quand il y a des cartons de livres à traîner, c'est lourd, c'est pas facile, donc il y a des gens qui travaillaient physiquement. Et puis il y a des gens qui travaillaient aussi sur l'informatique, des gens qui travaillaient sur les corrections, parce qu'un livre, il faut qu'il soit corrigé. Et il y a des gens qui travaillaient à distance, hein, sur lire les manuscrits, dire ça c'est bon, c'est pas bon. Et d'autres qui conseillaient, c'est-à-dire qu'il y avait des textes qui étaient à aménager, à arranger, et des textes qui étaient à mettre plus en avant, qui n'étaient pas à l'époque. On s'est dit qu'il fallait à tout prix que les textes qu'on avait, ils soient d'accord avec nos idées. Donc il y a des textes qu'on n'a pas pris, tout simplement parce qu'on n'était pas d'accord.
Ok, oui, donc il y avait une question d'idées aussi. Hein, de...
Bien sûr.
Ouais, ben ça c'est un petit peu logique. De toute façon, il faut bien une sélection à un moment. Hein.
Oui, mais en plus, on est dans un département qui est, moi je dis toujours, qui a parole unique. Hein. Il est monocolore, ce département de Haute-Loire. Et donc, les éditions du Ruhr, elles ont toujours voulu marquer un petit peu le coup et se différencier un petit peu.
Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'on est des départements, ouais, comme tu disais, c'est vrai, bon, c'est un peu les départements peut-être ruraux, hein, qui sont un peu dans ce sens.
En général, oui, mais il y a quand même des exceptions. Enfin, l'Allier était un département très rural aussi, mais qui était pourtant un département très marqué, très républicain. Il y a des régions de Haute-Loire, comme le Brivadois, qui est aussi un département rural, hein, une partie rurale, et qui a toujours été historiquement, depuis la Révolution française, a toujours été marqué laïque et à gauche, que Lissinger, qui était d'abord rural, après semi-industriel, parce qu'il y avait eu la passementerie, et la passementerie, c'était des gens qui travaillaient individuellement chez eux. Et puis, il est devenu assez industriel, mais il est monocolore, il n'y a aucun doute de ce côté-là, quoi.
Voilà, donc, les éditions du Ruhr avait un petit peu rétabli cela, donc en publiant eh bien peut-être des idées et des choses d'auteurs qu'on n'entendait pas souvent en Haute-Loire.
Bien sûr.
Alors, bon, le petit mot que tu as mis, je trouve qu'il est sympa là pour eh bien pour les lecteurs et les lectrices, hein. C'est vrai, 40 années d'existence. Tu dis, les éditions du Ruhr cessent de publier sans regret ni amertume, il faut savoir arrêter une histoire. Ouais, mais des fois, c'est pas facile, hein.
Et toujours dans un texte, ce qui est écrit et ce qui est derrière, bon, je ne veux pas vous dire que ça ne fait pas quelque chose d'arrêter, mais ce n'est pas mon enfant, je ne veux pas dire, ce n'est pas mon truc personnel. Les éditions du Ruhr, pour moi, c'est une entité. C'est pas une affaire personnelle, malgré que ça soit derrière une affaire personnelle, puisque je me suis beaucoup investi. Mais c'est pas parce que je me suis beaucoup investi que ça doit être à ma disposition et ça doit être mon truc à moi. C'est l'histoire de l'édition qui subit. Mais je pense qu'aussi dans les radios, c'est la même chose, et dans les livres aussi actuellement, c'est subi une mutation que moi je suis pas prêt à produire. Je suis pas prêt à produire du livre numérique. Je suis pas prêt à me vendre non plus à un grand groupe non plus.
Ouais, puis surtout que le livre numérique, apparemment, d'après les statistiques qu'on a, ça marche pas franchement, hein, même dans les grandes, ça démarre pas, quoi. Ça fait des années qu'ils essayent, mais ça démarre pas. Ouais, mais je veux dire, quand on a monté avec tes amis, quoi, un truc comme ça, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on est obligé d'arrêter, quoi. C'est ça un peu que je voulais dire, quoi.
C'est évident. Évident, je suis d'accord. Mais je vais pas verser une larme. Allons. C'est bien tout calculé, bien tout arrêté, bien tout décidé. On part sans laisser de dette, on part libre de tout. Même si on ne doit rien à personne, on dit ça y est, on arrête. Je suis pas comme un mensuel qui aurait des abonnés, qui au bout d'un moment dit à ses abonnés j'arrête et il ne sert plus les numéros qu'il avait dans ses abonnements. Moi je dis j'arrête, je produis plus et je ne dois pas, sauf peut-être le regret que des auteurs auraient qui attendent. C'est vrai que j'ai des manuscrits qui étaient en prévision, j'en ai plusieurs, et donc il fallait aller la voir ailleurs, et j'irai en voir ailleurs, et je les aiderai s'il faut.
Oui, bah c'est un peu le cas, on fait la relation entre les radios et les éditeurs comme toi. Bah c'est vrai que nous, quand on a débuté à Haute-Loire, il devait y avoir 7 ou 8 radios. On est la dernière qui a survécu en France entre 80 et 84, je crois. Il y avait 2400 radios, il en reste 650. C'est vrai que c'est compliqué parce que certains n'ont pas pu tenir pour d'autres raisons, hein, parce qu'il y a des raisons économiques aussi, c'est pas si simple. Hein. Et puis aussi, des fois, comme les passionnés, quand ils s'en vont, on trouve pas souvent la relève. Hein. On est un peu dans le même cas pour tout le monde, hein, je pense.
Mais Jean-Pierre, je pense que c'est un peu dans le même cas que moi. Si tu arrêtes, je sais pas si ça continuera, Radio Carbone.
J'espère, hein, tout le monde me dit ça, mais moi je suis prêt à laisser ma place, hein, c'est vrai que je suis passionné, hein, j'aime ça, hein, parce que je le fais depuis 30 et quelques années, 36 ans, mais je suis tout à fait prêt, mais moi que ça se précipite pas, hein, quand même. Alors c'est un petit peu malheureux, parce que c'est quand même un peu compliqué, là, ça a pris sa vitesse de croisière, je dirais, mais ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça, on verra bien. Tant qu'on a la santé, je dirais, on va continuer avec les animateurs qu'on a, les bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles aussi. Oui. Et puis après, on verra bien. Hein. C'est la vie, hein. C'est comme ça.
Absolument.
C'est une belle aventure, hein. Toujours. Moi, je la trouve très enrichissante. Je pense que c'était ton même cas. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai déjà découvert la Haute-Loire, puisque c'est vrai que comme on sort beaucoup, hein, pour faire des sujets, pour tout. Et je me suis beaucoup baladé en Haute-Loire, et plus je m'y balade, plus je trouve qu'on est dans un département absolument somptueux. Et c'est ce que je répète chaque fois aux gens, mais vous avez un département, enfin on a, puisque je fais partie du département, on a un département extraordinaire, hein, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et avec cette histoire du Covid-19, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le redécouvrir, parce qu'on ne va plus courir au bout du monde, parce qu'on ne pourra pas, déjà. Donc je pense que certains vont revenir un petit peu aux sources, hein, c'est ce qu'on peut dire.
Alors, ce virus imbécile, moi, ça m'a beaucoup embêté de ne pas pouvoir circuler, comme tu dis, en Haute-Loire, parce que moi, j'aime aussi ce pays. Et de partir comme ça dans un point de... Et puis, et découvrir des endroits sans avoir le but d'y étaler, c'est-à-dire de se dire, tiens, allez, je laisse ma voiture là et je marche à pied un moment et je vais voir ce que je trouve, je verrai bien ce que je trouverai. Alors ça m'a beaucoup manqué pendant ces mois et demi là, mais j'espère que qu'on va pouvoir recommencer, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et repartir à prendre son appareil photo, prendre des photos, mais c'est vivement qu'on puisse, quoi.
Normalement, à partir du lundi 11 mai, on va pouvoir, hein, circuler un petit, au moins dans notre département, quoi, pour l'instant. Écoute, Georges, je vais juste pour terminer, puis ça peut être un peu la conclusion, c'est toi qui la feras, mais quand même, dans ton petit mot lecteur, j'ai bien aimé la fin, là. Un magnifique et passionnant travail, les éditions du Roure sont une entreprise, mais son personnel est bénévole. Merci à la loi de 1901 sur les associations, et nous ne laissons aucune dette derrière nous. Le titre Roure continue. Éditeur engagé, nous ne nous interdisons pas de publier d'autres textes épisodiquement. Les ouvrages encore en stock sont toujours disponibles. Les droits des auteurs sont garantis. Merci à tous ceux qui ont fait partie de cette histoire, ceux d'il y a 40 ans, ceux de maintenant, les lecteurs fidèles et amis, les libraires qui jouent le jeu, les ouvriers du livre et les passionnés de l'écrit. Et puis tu signes en occitan Adiusiat. Alors ça veut dire adieu à tous ou...
Oui, bien sûr.
C'est adieu ça, ouais, je ne parle pas l'occitan, mais enfin...
Ça veut dire au revoir.
Ça veut dire au revoir, tout simplement.
Ouais.
Et j'ai... Alors, toi, on oublie toujours certaines choses. Alors, pourquoi ça s'est appelé les éditions du Roure?
Ah, mais ça, c'était... on me le demande souvent, cette histoire.
Oui, c'était la première question que j'aurais dû te poser.
Oui, quand on est un collectif, il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on se dise comment on va se dénommer. Et à chercher, on a dit, il faut qu'on essaie de trouver un titre qui soit à la fois français et puis occitan. Et il y a quelqu'un qui dit, mais il y a dans le coin là-bas un pays qui s'appelle Saint-Céréol de Roure. Et ça veut dire Saint-Céréol du Chêne, parce que le Roure, c'est le Chêne. Et il y a quelqu'un qui dit dans le collectif à nous, nous, on va s'appeler Édition du Roure, Édition du Chêne, tout simplement.
Ah, d'accord. Donc, en occitan, le Roure, c'est le Chêne.
C'est le Chêne Rouvre, oui.
Chêne Rouvre. J'aurais appelé quelque chose au moins. Écoute,
Voilà.
Georges, merci pour tout ce que tu as fait avec tes collègues. Et puis moi, je sais que j'aimais bien te rencontrer parce que tu es un personnage sympathique et puis
Mais
qui
moi,
avait
j'ai
des
toujours
idées.
plaisir.
Et il y en a beaucoup qui n'en ont pas d'idées, donc
Merci beaucoup.
ça compense un petit peu. Puis j'espère qu'on se reverra parce que même si les éditions du Ruhr vont s'arrêter, prochain livre Évasion, je pense que Georges sera là.
Probablement.
Ok. Eh bien, écoute,
Allez, merci
merci
beaucoup.
beaucoup, Georges, pour
Au
tout ce
revoir.
que tu as fait et puis à bientôt. Au revoir, Georges.
Au revoir.